Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Des... Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Bang,
et des...
Zip, shabam, pow, blanc, whiz.
Whiz, bonjour, vous êtes bien sur Radio B. Mais aujourd'hui, c'est un peu fréquence nostalgie.
Oui, voire radio nostalgie.
J'ai pas dit ça.
Fréquence nostalgie. Tu n'as rien dit.
J'ai fait exprès. En effet, nous allons nous replonger dans nos rapports intimes à la BD. Quand, comment l'avons-nous rencontré ? 1. Fréquenté longuement. Un voyage dans le temps, forcément. Éveillons nos souvenirs et allons au gré des cases et des bulles que nous avons parcourues. C'est parti.
La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, lent comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur la mouffin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des solitaires, à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait l'opprimé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin étend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur le camp est tombé. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Eddie Mitchell.
Oui, nous avons connu Eddie Mitchell, oui.
Et c'est pas franchement drôle, hein. Mais non. Aujourd'hui, on va être un petit peu, je le répète, nostalgique.
Oui, voilà, et drôle.
Voilà. Et drôle, on va essayer. Voilà, pourquoi le rideau est tombé.
Et sur quoi le rideau est tombé.
Sur quoi le rideau est tombé. Le rideau est tombé sur les BD. Sur les magazines de BD.
Oui.
Pardon, je suis précis. Qu'est-ce que c'est qu'un magazine de BD dans notre imaginaire collectif, un magazine de BD, c'est quelque chose qu'on allait chercher.
Oui. Hein? Qu'on va acheter, effectivement, au kiosque à journaux.
Voilà.
Oui, chez le marchand de journaux.
Voilà, c'était le marchand de journaux à l'époque.
Oui.
Et c'était un rituel, complètement rituel. C'était soit hebdomadaire, soit...
Mensuel.
Bimensuel ou mensuel.
Oui, oui. Ah oui, oui, oui. N'oublions pas les bimensuels.
Oui, mais oui. Ça existe.
Les bimensuels, si vous nous écoutez.
Oui, bonjour. Et c'est quand même une sacrée mémoire que nous avons en commun, bien que tu sois beaucoup plus jeune que moi.
Oui, extrêmement plus jeune que toi, oui.
Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, et que, bon, j'habitais à l'est de la France.
Oui.
Voilà.
C'est
chaud.
Oui, là où il fait froid, où il y a des loups.
Voilà.
Une forêt noire. Oui, à l'est.
Pas loin de la forêt noire. Pas loin de la forêt. Et avec mon petit frère, on allait chez le marchand de journaux chercher nos magazines. Alors, il y avait plein d'écoles à l'époque. Hein. Il y avait des gamins qui étaient Tintin, d'autres qui étaient Spirou. Après, quand on a grandi, on est passé à Pilote.
Oui.
Mais il fallait absolument que le marchand de journaux, sous contrainte, parce que des fois on le menaçait, s'il ne l'avait pas le mercredi par exemple, parce que je crois que c'était le mercredi. Et on attendait notre journal, et puis après, on se fricotait un petit peu avec mon frère pour se le partager. Quoi.
Oui.
Oui, oui, parce que... Il y en a un. Moi, j'étais le plus grand, donc
oui,
normalement...
Oui, mais t'es celui qui lisait le plus lentement, c'est ça. Et ça énervait ton petit frère. Non, parce que c'est ça aussi. Ben, quand on attend, effectivement,
le petit frère,
le magazine...
Attend, mais c'est normal qu'il attende. Hein?
Oui, oui, voilà. Il est là. Il est ton souffre-douleur. Oui.
Oui,
bon. Les petits frères, si vous nous écoutez.
les petits frères des pauvres.
Oui, oula.
Oh, pardon. Ça, c'est méchant.
Oui.
Oui, mais donc après, on a grandi. Tous, on a tous grandi. Hein.
Oui.
Voilà. Avec ce phénomène-là, après on est passé à des choses qui sont venues de l'étranger, parce qu'on a beaucoup de magazines qui sont venus des États-Unis.
Oui.
Tu nous en parleras mieux tout à l'heure, parce que toi tu as des souvenirs très précis.
Hein. Je sais.
Et nous, petits garçons, on est passé rapidement à des choses comme chez Lug, Strange, Marvel,
oui.
Des choses Lug. Comme ça.
L-U-G, oui, les fameuses éditions Lug, éditions lyonnaises.
Yes, tout à fait.
Oui,
je
ne
peux
pas oublier.
Même vous donner l'adresse, cher ami.
D'accord.
Rue Émile Zola à Lyon.
Ah oui, ah ben oui, ah, près de la place Bellecour. C'était
à
l'époque
fait.
Ici, d'accord, oui.
Et c'est pas le cours Émile Zola, c'est la rue Émile
oui,
Zola.
Oui, la rue Émile Zola, qui est une petite rue qui donne sur la place Bellecour.
Et si je peux vous faire une confidence, quand j'ai été étudiant, j'ai fait de la traduction pour les éditions Lug.
Ah, Jean-Marc, et qu'as-tu traduit notamment?
Ah bah c'était, je sais plus, le surfeur d'argent.
Oh, le surfeur d'argent, par Jean-Marc Marty. Alors là, c'est...
c'est le plus beau.
Ah, oui, oui, ça, oui.
C'est le super-héros que je préfère.
Oui, oui. Oui. Que nos auditeurs, effectivement, écoutent bien. Le Jean-Marc Marty pour le surfeur d'argent. Oui, le surfeur
mais
d'argent.
Mais j'ai en figurine chez moi.
D'accord.
Il est magnifique.
Ah, oui. Ah bien. Bien, d'accord. Et oui, tu as traduit beaucoup de numéros du surfeur d'argent.
C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs périodes. Non, j'en ai fait quelques-uns au début.
Oui.
C'est une amie qui m'a fait entrer chez Lug. Mais c'était facile de traduire. Il prenait les étudiants en anglais.
Oui, voilà.
Etc.
Pas cher.
Ah non, pas cher du tout.
Oui, et fou de Lug.
Ouais.
De petit Lug.
Non, on récupérait les BD, quoi, et puis on gagnait un peu de sous. Mais
d'accord,
très peu.
Bien.
Très peu.
Oui.
Mais c'était très sympa.
Oui.
Et après, il y a eu la deuxième période de Lug, où ils ont fait dessiner des auteurs, des créateurs français. En reprenant les personnages américains.
D'accord, donc c'était de la création française à partir des personnages américains.
Ouais.
Et pas une simple traduction de dessins venus des États-Unis.
Il y a quelqu'un qui est très connu dans le coin, c'est Mitton.
Oui, bah oui, 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 tout à fait.
Mitton,
grand dessinateur.
Il a fait le surfeur d'argent, entre autres.
Oui.
Et les quatre fantastiques.
Oui, effectivement.
Pour Lug, pour Lyon. Voilà, fin de la parenthèse. Mais...
Oui.
Ensuite... Oui, j'aimerais bien laisser la parole à Anne pour qu'elle m'explique...
Non, mais je t'écoutais, Jean-Marc. Je t'écoutais et je commentais.
J'aimerais bien savoir ce que lit une petite fille.
Oh Alors bon, moi je ne lisais pas, quand j'étais petite, de revues pour petites filles, je ne savais pas trop ce que c'était. Par contre, chez ma marraine, il y avait des compilations de journal de Mickey. Donc c'était le numéro annuel qui en fait rassemblait les 52 numéros de l'année. Et c'était des numéros assez anciens qui d'ailleurs dataient des années 60-70. Et donc moi j'allais en fait chercher le journal de Mickey à l'heure où ma sœur faisait sa leçon de piano, le mercredi. Et donc pendant qu'elle faisait ses gammes... chez sa professeure de piano, donc j'allais chez le marchand de journaux et j'achetais donc un numéro du journal de Mickey. Alors j'en ai pas eu tellement d'autres en fait, hein. Je veux dire après évidemment c'est toujours dans les familles l'effet grand frère qui lui a, c'était pas pilote, hein, c'était fluide glacial, c'était surtout à suivre.
Ah c'est déjà plus
dont
tard.
Dont on a un numéro aussi, enfin plus exactement une compilation de différents numéros ici dans le studio. Et donc le journal de Mickey ça m'a... j'aimais bien, j'aimais pas en fait Mickey, j'aimais pas Donald, Picsou, etc. Eux ne m'intéressaient pas. En fait, c'est Mandrake et Guy l'Éclair. Voilà, c'est la traduction de Flash Gordon, le fameux personnage
de l'extrême-monde. La plus belle traduction du monde de
In the world.
Voilà. In the world.
Guy l'Éclair. Voilà, et ces deux personnages m'ont beaucoup marqué. Et c'est par la suite que j'ai acheté aux éditions Futuropolis dans les années 90. En fait, les comic strips d'origine compilés dans des...
Formats italiens.
Format à l'italienne,
chez Serg.
Oui.
Si mes souvenirs
non,
sont exacts.
Non, chez Futuropolis.
Avant, ça avait été publié chez Serg.
Alors, moi, c'était la deuxième publication chez Futuropolis. Voilà. Donc, c'était la fameuse la maison d'édition de Florence Cestac.
Cestac, ouais.
Oui, tout à fait. Donc,
qui était alliée à Mettez-Lourdes, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Oui, oui.
Qui était assez proche de Mettez-Lourdes.
Voilà. Par contre, de Spirou, je ne connaissais pas la revue. J'ai connu Spirou et Fantasio, qui m'ont beaucoup plu, donc j'ai acheté les albums. Mais par contre, je ne connaissais pas la revue Spirou. Voilà.
Et sinon, qui existe toujours, hein.
Oui.
Mais uniquement sur abonnement.
Ah, d'accord. Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Parce que mon fils est toujours abonné à Spirou.
Ah,
à son
bien.
Âge.
Oui,
c'est
à
grave.
Son âge. Oui, c'est grave. Et s'il a des enfants, ils seront abonnés à Spirou aussi. Oui.
Je ne sais pas. Hein. Oui. Bon, c'est pas grave.
Sinon, il m'est arrivé d'acheter dans la continuité de l'Empire Contre-Attaque, puisque bon, j'étais trop petite pour aller voir la Guerre des Étoiles, mais j'étais un peu plus grande pour aller voir l'Empire Contre-Attaque. Et donc, ça m'avait tellement marqué que j'achetais tout ce qui était lié en fait à l'Empire Contre-Attaque. Donc le livre, évidemment, mais aussi j'ai découvert Strange. Mm-hmm. Oui, Strange et Titan. Bon,
Titan,
oui. Oui, oui, que tu es moins d'ailleurs
déjà,
que Strange.
Ça
oui, à l'occasion
baissé,
de,
ouais.
Oui, de, ben en fait.
C'est-à-dire qu'on a commencé à démultiplier.
Oui.
Et ça a commencé à être un petit peu pénible.
C'est-à-dire en fait la multiplication des fascicules des revues.
Oui.
Oui, des numéros venus de la bande dessinée américaine.
Moi, j'aimais bien. Tout au début, quand il y avait juste Fantasque, après il y a eu Strange, il y a eu Marvel, et c'était assez concis dans la distribution, etc. C'était assez précis. Après, on s'est un petit peu étalé, et puis on a fait venir des États-Unis des produits qui n'étaient pas forcément les meilleurs.
C'est-à-dire, par exemple
dans les séries, on sera d'accord là-dessus. Dans les séries américaines, il y a des personnages forts. Qu'on retrouvait bien dans Strange, par exemple.
Oui.
On avait Spider-Man, on avait le Surfeur d'Argent, on avait des personnages comme ça. Les Quatre Fantastiques, bien entendu. Et puis après, dans Titan, par exemple, c'était une revue un petit peu à côté. Et je suis méchant quand je vais dire ça, mais c'était un peu dépotoir. Quoi. C'était moins intéressant. Parce qu'on a vu des héros qui étaient le prince des mers, là. Je ne sais plus comment
Aquaman,
non? Non, l'autre. Aquaman, c'est DC.
Ah oui,
excuse-moi,
c'est DC. Ah oui, 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 oui.
Non, c'est l'autre, mais c'est le pendant de chez Marvel. C'était pas du tout intéressant. C'était... voilà.
Oui.
Que dire de plus?
Que dire de plus? Moi, ce qui m'avait marqué dans le magazine Titan, c'est ce style visuel qui est à la Jack Kirby, Donc avec des personnages effectivement qui ont des physiques qui rappellent un peu les proportions de la statuaire de Michel-Ange où tout est... Bon, on est dans le comics américain,
c'est
mais vraiment
c'est le héros
grec,
hein, c'est...
Oui, tout à fait. On a l'impression qu'en fait, on a mal réglé le format de la télévision. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que...
Jack Kirby, c'est un des plus grands dessinateurs.
Que... Oui.
Mais c'est lui qui a créé les 4 Fantastiques, qui a créé le Surfer d'Argent aussi. Qui est, le Surfeur d'Argent, j'aime bien parler de lui.
Oui, allez, parle-nous du Surfeur d'Argent.
Qui a été repris magnifiquement par John Buscema. Dis Buscema, je le fais exprès, parce qu'il il était un peu italien.
Ah, d'accord.
Voilà. Et à noter quand même, parce que si tu nous écoutes Moebius, c'est intéressant. Moebius a été sollicité par une revue dont on parlera par la suite, par à suivre, pour faire un épisode du Surfeur d'Argent.
D'accord.
Qui a été repris par Marvel et édité aux États-Unis.
Oui, mais Moebius a beaucoup marqué, en fait, la culture américaine.
Oui. Et inversement.
Et japonaise, oui.
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 Et inversement. Grand dessinateur.
Oui. Très grand dessinateur, effectivement. Oui. Et sinon, il y avait aussi... Enfin, tu m'avais parlé, quand on en avait discuté, du mensuel Batman.
Oui, bah Batman, c'était des épisodes de Batman, quoi,
oui.
C'est tout. Et puis Robin, il y avait des épisodes qui ne concernaient que Robin.
Ah d'accord, oui. Et quel était le dessinateur?
Oh, il y en a eu plusieurs. Mais mon dessinateur préféré,
oui.
Je vais vous expliquer tout ça, c'était Neil Adams. Ça vous dit quelque chose, hein?
Ah, Jean-Marc, tu m'en as parlé 100 fois. Mais je te laisse la parole.
100 fois ni loi.
Oui, 100 fois ni loi.
Neil Adams, c'est le... vous savez qu'à l'époque, les dessinateurs travaillaient en studio. Et c'était de l'abattage. C'est-à-dire qu'il y avait celui qui faisait le crayonnage.
Du taylorisme. Oh, de l'abattage.
Oui, c'est pareil.
Tout de suite. Comme des poules en batterie.
Il y en a un qui faisait l'ancrage, donc il passait derrière celui qui avait fait le crayonné. Et ensuite, il y avait le lettreur.
Oui, le lettreur. Tout à fait. Qui fait donc les lettres dans
plus,
les légendes et les bulles.
J'ai oublié le coloriste.
Ah oui, oui, oui. Ah ben oui, c'est une profession en particulier.
Donc, il travaillait en batterie,
oui,
comme
oui.
Les poulets. Et c'était, comme on dit en anglais, 9 to 5 jobs. De 9h à 5h de l'après-midi, ils bossaient comme des malades, à toute vitesse. Et par contre, ils n'avaient aucun droit d'auteur, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement salariés.
Oui.
Et Neil Adams a créé le premier syndicat de dessinateurs. Ils ont fait un blocus pendant un temps. Et il a réussi à obtenir que, en fait, ils aient des droits d'auteur sur leurs dessins. Ce qui était une belle progression, quand même.
Oui, 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 tout à fait.
Mais ça explique, on en reparlera tout à l'heure sur un autre sujet, la difficulté de la publication du périodique. Parce qu'il y a encore d'autres facteurs qui rentrent dans le jeu, surtout chez nous.
Bah, en fait, notamment par rapport aux fascicules et par rapport à ces publications mensuelles de fascicules, même si c'est mensuel, il faut quand même se dire que c'est un gros travail, surtout que beaucoup d'auteurs font d'autres choses à côté. Donc moi, je me souviens d'avoir été marquée parce que je désirais ardemment lire la série Wonder Woman de Brian Azzarello et Cliff Chang au dessin. Et donc, ce qui m'avait marquée, c'est que aimant beaucoup le dessin de Cliff Chang, j'étais très frustrée de voir que au milieu de la série apparaissaient des fascicules qui étaient faits par un autre dessinateur et qui étaient nettement moins bons en fait que lui. Et Cliff Chang avait déclaré officiellement que pour les amateurs de son dessin, lui-même était, enfin, qu'il ne pouvait que frustrer justement les amateurs de son style parce que justement il n'avait pas le temps de pouvoir répondre au rythme de publication de DC sur cette série. Ce qui est vraiment bien dommage et ce qui, à mon avis, gâche en partie la série Wonder Woman d'Azzarello et donc The New 72. The New 52, pardon. Enfin, les...
1952.
Oui, ouais, 1952, voilà. Ou 52, plus exactement. C'est pas 1952.
Vraiment.
Oui, voilà.
Mais c'est arrivé, c'est la problématique avec... surtout chez DC, d'ailleurs. Les personnages chez DC ont changé souvent de... j'allais dire d'interprète, de dessinateur.
Oui.
Et je prends un personnage que j'aime bien, c'est Batman.
Oui.
Il a changé de dessinateur, il a changé complètement de consistance à travers les différentes périodes qu'il a pu connaître.
Oui, 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 tout à fait. Mmh. Et bon, il y a le style, hein. Disons que c'est assez, enfin, je ne sais pas si ce terme convient, mais incrémental au sens où un style s'enrichit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a une telle culture Batman que forcément, tout est système de référence en fonction des collections. Mais ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, et c'est une critique qui est de plus en plus émise par les fans de ces personnages et qui achètent donc, les fascicules, qui n'attendent pas forcément la compilation européenne, qui vont chercher les fascicules donc, américains. Parce que même quand tu vas chez un marchand de journaux, tu trouves les fascicules de collection. Tu peux très bien, en fait, ne pas avoir à attendre l'album. Tu trouves les fascicules chez les marchands de journaux.
En VO.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ils veulent tellement fidéliser, donc pour des raisons économiques, c'est bien compréhensible, donc leur lectorat, que DC a une politique qui est de plus en plus contestée. Parce que, par exemple, ils n'hésitent pas, quand ils ont des auteurs aussi bons soient-ils, à les virer quand il y a un rapport de force entre ces auteurs et puis la direction, qui ne cesse d'affirmer que les personnages leur appartiennent.
Tout à fait.
Oui. Donc, leur appartiennent, pardon. Et régulièrement, il y a des rapports de force entre DC et puis les dessinateurs et les scénaristes.
D'ailleurs, ça c'est une parenthèse, mais il y a des dessinateurs qui passent de chez Marvel à chez DC.
Ah ben oui,
depuis longtemps. Pour ces raisons-là, puis c'est... Oui. C'est un peu comme au football, hein, comme on appelle ça, c'est le market. Là.
Oui, tout à fait, oui, oui. Le mercato.
Voilà, c'est le mercato.
C'est le mercato, oui, oui, exactement.
Et quand on a une mercato, c'est difficile.
Oui. Ouh, Jean-Marc, c'est très très fort.
Donc... Mais j'ai pas fait que ça.
Donc oui, on a parlé de Batman. Il faut parler aussi du magazine À Suivre. Donc là, on a quitté un peu l'enfance, le journal de Mickey.
Et ouais, moi j'ai grandi. Ouais,
oui. Et donc après, il y a eu À Suivre. Oui, moi aussi j'ai grandi entre temps.
Ouais, ouais.
Et mon grand frère avait effectivement Fluide Glacial qui me plaisait plus ou moins, mais j'aimais beaucoup À Suivre.
Ah oui, il y avait.
Qui a disparu, hélas. Oui.
À Suivre, c'est. Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est un peu intéressant.
Bah, À Suivre, donc parution de février 1978 à décembre 1997, donc voilà. Quasiment 20 ans.
Ouais, 19 très grands auteurs,
oui,
Grenoble,
À Suivre. Oui.
C'était juste à côté de chez nous.
Ah d'accord.
Voilà.
Donc Grenoble, autre grande ville du livre, oui.
Ouais, tout à fait, et ça continue. Et À Suivre, on a comparé tout à l'heure entre nous, À Suivre et Metal Hurlant, qui pour moi correspondent à peu près à la même époque. Je reparlerai de Metal Hurlant après, mais je vais parler d'À Suivre tout de suite. Donc À Suivre, effectivement, ils ont suivi la tradition des Tintin, Spirou, etc. Donc ils sortaient les albums tous les ans, des singes, je crois. Et là, celui-là, c'est 77.
Ah non, pardon, c'est la série de numéros, en fait, de 72 à 77.
Pardon.
Oui.
Oui, mais peu importe, c'est pas grave. Et là, on a rencontré plein de nouveaux dessinateurs à l'époque, parce que c'était quand même assez aventureux. Et À Suivre, c'est aussi très bavard.
C'est 1984, en fait. On a une série sur 1984 dans le À Suivre qu'on a en studio.
C'est George Orwell, hein, 1984.
Oui, bien, bien. Je vois que tu révises tes classiques durant ce temps-là.
Et c'est vrai qu'on a découvert beaucoup de dessinateurs.
Oui.
Dans À Suivre, pour lesquels il n'y avait pas de place ailleurs.
Oui.
Dont il fait la couverture Comès, qui est un dessinateur assez atypique.
Oui, oui, oui.
Et c'est lui qui faisait ses scénarios, oui, je crois.
Oui, tout scénarii. À fait, c'est lui, oui scénarii. C'est scénarii. Et donc là, c'est Eva de Comès, oui, qui est un très bel album. Oui. Voilà. Un thriller, en fait, très intéressant.
Puis il a fait, toujours là-dedans, il a fait Silence.
Oui.
Il y avait aussi Tardy,
oui,
dedans.
Bah, c'est là qu'est publié notamment, elle avait commencé avant, hein, mais un album de Adèle Blanc-Sec, Le Noyer à deux têtes, oui, dans les numéros qu'on a sous les yeux.
Mm.
Donc effectivement, c'est de la prépublication Et puis, il y a des petits articles sur des auteurs de référence de bandes dessinées. Certains qui ne sont pas forcément connus, ce n'est pas que des Français. Donc, on apprend énormément de choses en fait, dans le magazine à suivre. Donc, il y a des articles. Ils sont très petits, hein. Il faut dire que la mise en page est très dense. Et donc, c'est très serré, il n'y a pas beaucoup de marge, en fait. C'est un magazine qui a énormément de choses à dire.
Alors, je ne savais pas qu'il est étouffant, mais c'est qu'il
est... Oui, il est dense, il est très très dense. Exactement, oui. Alors, ce qui est très agréable, c'est que c'est une publication de qualité. Il faut quand même noter que c'est sur un papier qui est vraiment...
C'est un beau papier.
C'est un très beau papier, et c'est très agréable au toucher. Donc, oui, c'est une très très belle revue, oui. Sinon, Métal Hurlant, on a aussi un numéro ici de Métal Hurlant.
Alors, c'est à peu près la même époque. Hein.
Oui, sachant qu'effectivement, on peut dire que c'est la première série. À suivre et Métal Hurlant convergent sur la première série, sachant que la première série dans Métal Hurlant, c'est une parution qui est allée de janvier 1975 à août 1987. Et donc, il paraît toujours, hein, puisque là, je lis qu'il paraît à nouveau depuis 2002.
Moi, j'ai pas relu récemment Métal Hurlant et j'ai pas, je ne suis pas perçu de l'avoir vu en kiosque.
Ben, peut-être que l'article que j'ai sous les yeux n'est pas à jour, j'en sais rien, mais moi aussi, je l'ai pas vu en kiosque.
Ce qui est surprenant. Mm-hmm. Par contre, on en parlera tout à l'heure, mais il passe peut-être par d'autres canaux de distribution.
Mm-hmm. Oui, fort possible, effectivement.
Alors, Métal Hurlant, c'est pas l'antithèse de la suivre, mais ça se complète bien. Parce que moi, à l'époque, j'ai acheté les deux.
C'est de la BD vraiment artistique, déjà.
Mais Métal Hurlant, c'est du rock, hein. Oui. C'est autre chose.
Oui, effectivement, c'est du rock et c'est très marqué par la culture SF, en fait.
Ouais. Tout le temps.
Contrairement à Suivre, qui est beaucoup plus hétérogène, qui en fait joue sur la mixité des genres.
Mais c'est plus littéraire, presque.
Oui, exactement. Et c'est plus, entre guillemets, encyclopédique, c'est-à-dire que en fait, le public est plus large en termes de goût, tandis que Métal Hurlant, c'est très marqué, justement, comme tu le dis, rock, et puis SF. Et donc, nous avons sur le numéro qu'on a sous les yeux donc, une magnifique couverture d'un artiste qui est à la retraite.
Qui est lyonnais.
Oui, qui est lyonnais, qui est Jean-Michel Nicolet, qui était le compagnon de la très excellente illustratrice Kellec, et
Moi, je ne le dis plus rien.
Et en 2012, il y a eu une exposition à la MJC ici à Bourg sur Métal Hurlant. Et donc, ils avaient fait, l'équipe de la MJC avait invité Monsieur Dionnet de l'équipe de Sex Machine.
Monsieur Dionnet qui dirigeait Métal Hurlant.
Oui.
Et que j'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer.
Oui, qui est effectivement un érudit en termes de bande dessinée et de cinéma.
C'est un fou de cinéma.
Et de musique, oui. Jean-Pierre Dionnet, oui. Voilà, donc Métal Hurlant, effectivement, très marqué par cette culture. Et donc, une superbe illustration donc, de Nicolet, avec, je ne vous décrirai pas la couverture.
Donc,
oui, non, mais c'est très marqué par ce genre qui, je trouve...
Oui, ça fait un petit peu sadomaso, excusez-moi.
Oui, c'est un côté assez sadomaso, mais c'est très esthétique.
C'est très beau.
Oui, comme tout à fait.
Ce que fait Nicolet.
Oui, exactement, avec un sens en plus des proportions, c'est un remarquable dessinateur. Mm-hmm. D'ailleurs, jusqu'à sa retraite, il a été enseignant à l'école Émile Coll. À Lyon.
Je vais dire les Beaux-Arts de Lyon.
Non, mais Émile Coll, je connais.
D'accord.
Oui. Voilà.
Émile Coll, Sipic.
Ah, je l'attendais celle-là, mais je ne m'attendais pas à ce jeu de mots en particulier. Donc, que peut-on dire des revues ? Ben, en fait, que c'est une entrée vers... ça permet aux auteurs de se faire connaître.
Mm-hmm.
Voilà, de donner envie. Ce sont ce qu'on appelle des previews. Hein,
ou des tremplins, on va dire en français.
Oui, des tremplins, effectivement. Des bandes-annonces d'albums à venir, sachant que le propre de ces revues telles que à suivre, c'est que l'album est intégralement publié. C'est pas uniquement quelques planches qui sont montrées pour donner fin et pour que les gens aillent voir. Non, c'est intégralement publié. Et moi, je trouve que ça fonctionne bien. Parce que tu achètes l'album deux fois, finalement.
Oui. Oui, mais l'album, c'est un autre objet.
Oui, tout à fait. Mais quand tu aimes, moi, je sais que acheter à suivre d'un côté et puis l'album ensuite, oui, c'est pas un problème.
C'est un autre plaisir.
Oui, parce que les previews, elles sont un peu trompeuses. Hein. Moi, j'ai failli acheter le Grant Morrison, enfin le Wonder Woman de Grant Morrison et Yannick Paquette qui est paru au mois de mai de cette année. Heureusement que je l'ai feuilleté en librairie parce que les premières images étaient très intéressantes, mais franchement, je l'ai laissé. Mais bon, il paraît qu'il est quand même bien. Hein.
Mais par contre, petite remarque, dans les magazines à l'époque, on disait, oui, de pré-publication,
oui.
Il y a des dessinateurs qui n'ont jamais sorti d'album.
Oui.
Ils mettaient leur nom, c'est parce que je l'ai sous les yeux, c'est un classique de ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont passés dans Metal Hurlant et qui n'ont jamais sorti d'album par la suite. Il n'y a que les grands noms.
Oui.
Metal Hurlant, c'est quand même, c'était une grande maison. Donc il fallait que ce soit rentable. Bon, maintenant, Metal Hurlant, c'est des humanoïdes associés.
Oui.
Ils sortent directement des albums.
Oui, tout à fait, oui. Hein? Oui, des hommes et... C'est... Quel album, en fait, j'arrive plus à me souvenir du titre, mais ce qu'a fait justement Jean-Pierre Dionnet, donc, est sorti aux humanoïdes associés. Oui,
ouais, mais il écrit beaucoup, Dionnet.
Oui,
ouais.
Tout à fait, oui, notamment au niveau du scénario. Je te propose une chose, si on faisait une petite pause, qu'est-ce que tu en penses, une petite pause musicale?
Allez, on y va.
Et après, on repart sur nos revues.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now. Stand by me, stand by me.
Bon, bah, restez à côté de moi. Hein.
Oui,
c'est ce
Pauline
que ça veut
avait
dire.
L'air de bien aimer la chanson, qui est magnifique, hein, Stand By Me.
Oui, mais justement, restez à côté de moi.
Oui, voilà. Oula, finalement, je vais. Oh, pardon.
Excuse-moi,
Jean-Marc.
Je ne sais plus quelle version c'était.
La version d'origine, non, celle-ci.
Ouais.
Ouais.
Mm-hmm. Ouais, ne demande pas son nom, ouais, parce que j'ai oublié.
Bravo.
Bon.
Donc, et si on abordait la période acné?
Acné. Oui, donc, l'adolescence. Quand il y a des choses qui vous tourmentent, on change le magazine. Alors,
en fait,
à ce moment-là.
On va sortir en fait, effectivement, du marchand de journaux où on était petit, où on commence à grandir, on commence à se rendre compte que donc il y a d'autres personnes qui ont d'autres magazines qui nous tentent à côté. Et là, en fait, qu'est-ce que nous apporte la revue de bande dessinée ? Déjà, quelles sont celles qu'on va regarder pour commencer à émoustiller notre sexualité ?
Complètement.
Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, les revues de BD ?
C'est ce qu'on appelait à l'époque les revues pour adultes. Entre guillemets.
Oui. Mmh. C'est-à-dire pour les grands, en fait.
Ouais, pour les grands. Fini, mais
fini les aventures ans, qui grand, se finissent bien. Oui.
Et donc ce que j'ai gardé de cette époque, c'est Fluide glacial, L'écho des savanes.
Ah-ha.
Non, mais c'est quand même tranquille. C'est oui. pas.
Non, c'est tranquille, L'écho des savanes, oui.
Mais,
avec Vilma.
Vilma, c'est peu trash.
Oui, voilà. Surtout au début, là. Il s'est un peu calmé au fur et à mesure des années, mais au début, Oui.
Ouais. Mm-hmm. Mais mes souvenirs, c'est Gottlieb, dans Fugue glaciale, oui, au début.
Oui,
Foester. En plus, il a été rédacteur en chef.
Edika.
Maester. Avec une vision de la femme qui était un petit peu particulière.
Ah, c'est drôle, moi je trouve ça très drôle. Ah si, c'est tellement
exagéré.
Absurde.
Par contre, Edika, elle avait une particularité, c'est qu'il ne savait jamais comment finir son histoire.
Oui, tout à fait, ça partait en vrille et donc il avait une façon de
faire ses histoires
en queue de poisson.
Souvent, il se terminait se dessinant lui.
Exactement, avec les personnages qui sortent de la planche, et une personne de sa famille qui l'appelle en disant bon, maintenant c'est fini, on passe à table. Oui.
Et j'ai un grand souvenir, c'est Marie-Thérèse des Batignolles.
Ah oui, sainte Marie-Thérèse des Batignolles, oui, tout à fait.
Elle n'était pas sainte encore à l'époque.
Ah oui, Marie-Thérèse des Batignolles. Marie-Thérèse des Batignolles, oui, oula.
Et Marie-Thérèse des Batignolles, elle évangélisait dans les bistrots.
Oui.
Un coup de poing.
Oui. On avait effectivement vu un album dans une émission précédente.
Voilà, c'est absolument génial. Mm-hmm. Et il y a un tas d'auteurs qui sont passés dans ces deux revues.
Oui.
Qui sont absolument.
Exactement.
Je les mélange quasiment parce qu'elles sont frères et sœurs. Quoi.
Tout à fait. Exactement.
Et il y a des dessinateurs qui passent de l'un à l'autre.
Oui.
Régulièrement. Mm-hmm. Et elles existent toujours encore.
Oui, tout à fait.
Il faut le remarquer.
Avec de nouveaux dessinateurs.
Ouais,
donc il n'y a plus Edika, notamment, dans Fluide glacial. Il y a d'autres dessinateurs.
Ouais. Mais c'est important. Là, je vais faire une toute petite parenthèse, parce que c'est un truc qui m'embête depuis longtemps. Ces revues, elles tiennent actuellement toujours, toutes les deux.
Oui.
Sans publicité.
Mmh.
Ce qui est assez exceptionnel à notre époque.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il y a nombre d'éditeurs qui ont été obligés de se mettre à la pub parce qu'on ne peut plus continuer à vivre la revue. Pourquoi ? Bonne question.
Oui.
Alors, en France, on a un système. Là, je vais être agressif. Je vais être mélanchonien. On a un système de distribution qui est très compliqué, ou très simple, comme on veut. Alors, en France, on a deux organismes de distribution, qui sont les NMPP, Nouvelle Messagerie de la Presse Parisienne, et les MLP, Messagerie Lyonnaise de Presse. Ça peut vous paraître complètement bizarre, mais ça veut dire que la France est coupée en deux. D'un côté, on a tout le... coupé en deux, la France au milieu, à peu près. Tout ce qui concerne les NMPP, c'est vers Paris, en descendant. Ensuite, les MLP s'occupent de tout ce qui concerne la région lyonnaise et le sud de la France. Alors, pourquoi c'est particulier ? Par ma propre expérience, nous avions créé un journal de bande dessinée à Lyon, et je voulais faire jouer la concurrence entre ces deux organismes. Et j'avais téléphoné à Paris, Et on m'a dit, ah non, monsieur, vous êtes sur Lyon. Donc il faut passer par les MLP. Donc la France, ils se sont répartis la France en deux.
Oui.
Alors ça, c'est le premier problème. Mmh. Donc nous sommes passés par les MLP. Ensuite, il faut payer d'avance la distribution du magazine. Et ça, c'est une charge très lourde. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'air insolite, comme on dit. Mmh. Donc vous payez d'avance la distribution du magazine que vous ne contrôlez pas. Je t'avais donné un exemple. Hein, c'est, si vous voulez tuer un magazine, vous mettez Place Bellecour au kiosque, vous en mettez deux, ça va tenir la journée. Et puis, vous allez, je ne sais pas, moi j'ai dit Montluel, au hasard. Merci Montluel, je ne vous en veux pas. Vous en mettez 35 à Montluel, ils ne seront jamais vendus. Voilà. Et le problème, c'est ce qu'on appelle le retour. Avant même que vous ayez payer l'acheminement, on va vous faire payer, on va vous facturer le retour. Et le retour coûte deux fois plus cher que l'acheminement. Donc, pour trouver un magazine, c'est très très simple.
Oui, ah oui, à ce point-là, oui, effectivement.
C'est pour ça que, dans ce que tu as trouvé, comme la durée de vie des magazines, ça va très très vite.
Oui.
Il y a même des magazines qui ont duré 3 mois ou 4 mois.
Oui, 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 tout à fait. Mais en fait, il y a une liste de périodiques de bandes dessinées sur Wikipédia, et effectivement, il y en a beaucoup qui ont duré très peu de temps, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, BD, l'hebdo de la BD, édition du Square, parution d'octobre 1977 à novembre 1978. Ils ont tenu 13 mois. Après, bon, il y a des périodes... où on peut expliquer, effectivement, dans l'immédiate Seconde Guerre mondiale, que c'est tenu très peu de temps, en fait, donc, avec toutes les parutions qu'il y a eu, d'ailleurs, à cette époque, et qui ont vite disparu. Oui, 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 tout à fait, il y en a beaucoup, effectivement, qui ont disparu assez rapidement. Oui.
Voilà, donc ça, je pense que c'est un vrai problème, et ça nous explique un petit peu pourquoi ces périodiques ont disparu. Mmh, oui. Et qu'il est peut-être plus intéressant maintenant, comme le fait Metal Hurlant, donc parlant maison d'édition, c'est de faire directement des albums.
Oui.
Après, il y a d'autres moyens de promotion des albums, entre guillemets. Bah, ça peut être sur Internet, ça peut être en passant par une radio libre comme la nôtre.
Oui.
De parler des albums et de les faire vendre quelque part indirectement. Ça passe aussi par les bibliothèques, etc., qui nous font découvrir des albums. Et c'est vrai que quand on a envie de les avoir, on peut les acheter après. C'est pas un problème, ça.
Oui, 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 tout à fait. Oui. Je te propose de faire une nouvelle pause musicale avant que nous abordions donc, la question des petits plaisirs que procurent les revues par rapport, je dirais, à une vision un peu intello, c'est-à-dire l'éducation du regard par la bande dessinée. Qu'est-ce que tu en penses ?
On est d'accord.
Oui, on est d'accord.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, hearts that never mend.
Alors, qu'était-ce donc que cette chanson?
C'est un nouveau garçon qui est arrivé en ville.
Ah oui.
A new boy in town. Et c'est les Eagles. Et vous aurez tous reconnu le solo de guitare extraordinaire de Joe Walsh au milieu. Voilà, ça je l'ai balancé.
Ah, dis donc. Waouh.
C'est fait.
Ah oui, on voit que tu es connaisseur. Alors, de quoi va-t-on parler maintenant en ce qui concerne les revues? Peut-être de ce que procure, en fait, la revue. Allez, un peu le moment intello.
Non, mais ça procure déjà un plaisir immédiat, parce que quand on va chercher, on a parlé tout à l'heure, quand on va chercher la revue, etc.
Oui, la périodicité de la revue fait que, effectivement, y a de la fidélisation à une revue.
Ouais, tout
et
à
puis
fait.
En plus, vu le coût des albums aujourd'hui, la revue nous rappelle que parfois on n'a pas grand-chose dans notre porte-monnaie.
Exactement.
Et donc c'est beaucoup plus abordable qu'un album qu'on achète en librairie.
Et ce qui est intéressant, c'est que la revue, à l'époque, ça provoquait, personnellement chez moi, ça provoquait des envies de dessiner.
Ah voilà. Oui, d'accord.
Énormément.
Oui.
Et j'ai été un gentil petit garçon parce que j'ai passé mon temps, il suffisait que j'ai un papier, du papier et un crayon et c'était tranquille.
J'en étais personne. Tu te mettais dans un coin et tu restais dans ce coin pendant des heures.
Attaché au radiateur.
Dans le placard. De temps en temps, on te mettait la lumière pour que tu vois ton dessin.
À dessin.
Oui, puis on te passait des tranches de jambon et des petits lus sous la porte.
Non, mais ça donne envie aussi d'écrire des histoires. Hein.
Oui. Bah, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'au début, donc on va acheter le magazine, enfin du moins moi, c'est comme ça que je le ressentais. On achète le magazine pour l'histoire, pour le plaisir visuel lié à l'histoire. Et puis après, je sais pas toi, mais effectivement, on est de plus en plus fascinés. On se dit, mais comment ça se fait que ça marche? On se pose des questions sur comment ça fonctionne. Et donc, y a non seulement l'histoire et tous les ressorts dramatiques de l'histoire et de l'aventure, mais il y a aussi effectivement la beauté des personnages, comment ils sont faits. Oui, on commence par copier. Enfin, moi, j'ai commencé par copier, notamment
aussi.
Les personnages que je trouvais les plus beaux.
Mais dans notre vie, on a tous des chances. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un prof de dessin extraordinaire.
Mm-hmm. À quelle époque? Enfin, je veux dire, je ne te parle pas en siècle, je te parle en lycée,
c'était
collège.
C'était au siècle dernier,
oui, voilà.
Quand même.
Ouais. Ah bon, tu as plus de 17 ans?
Oui, mais c'est un monsieur qui était prof au lycée Caria.
Ah.
Bonjour, Bourg-en-Bresse.
Oui.
Et qui est devenu ensuite directeur des Beaux-Arts de Lyon.
Ah,
monsieur Moge, un monsieur extraordinaire. S'il est...
encore de ce monde.
Aussi, je pense.
Et même dans l'autre monde,
voilà.
Qui nous écoute.
Voilà. Et il a pris sur son temps de repos, c'est-à-dire le mercredi après-midi à l'époque. Et on était deux, j'avais une amie qui était intéressée par le dessin. Et il nous faisait dessiner.
Ah,
c'est là que j'ai fait mes premières BD.
Ok. Oui.
Vous en savez beaucoup de choses.
Oui, ah bah, tout à fait.
Voilà,
oui.
Mais ça vient tout à fait de la lecture des périodiques. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a envie, on se dit, putain, mais c'est bien, ça marche. J'ai dit, putain, pardon.
Mais personne n'a entendu.
Oui, je répète. Et on se dit, mais moi aussi, je peux le faire, quelque part. Alors, quelquefois, c'est un peu prétentieux, parce que mes premières BD, c'est bon, bravo.
Tu les as cachées, brûlées.
Quelque sorte.
Ah oui.
Non, j'en ai gardé quelques-unes quand même.
Mmh.
Mais c'était un éveil qu'on n'a pas maintenant avec l'album de BD. Je redeviens sérieux.
Oui.
C'est-à-dire que les enfants, ils ont, à part grâce aux médiathèques, aux bibliothèques, etc., ils peuvent avoir le plaisir d'aller feuilleter des BD et de bah, de s'ouvrir un petit peu, mais autrement, acheter une bande dessinée en librairie, ça coûte quand même relativement cher.
Bah maintenant, elle dépasse toutes les 10 euros, donc on est ouais, plus à 15 euros. On arrive maintenant à des graphic novels à 22. Les comics maintenant, les comics que j'ai achetés, Greg Rucka, encore une Wonder Woman ratée, donc 22 euros. Je ne sais pas quoi en faire, hein. Je vais essayer de le revendre sans attendre 150 ans pour que ça gagne un peu de valeur, alors que ça n'en gagnera absolument pas, parce que ça n'a absolument rien de... Enfin bon, bref, j'ai, ça m'est tombé les mains.
La différence oui. entre... on repart sur notre sujet primaire. Les revues, c'était pas un gros investissement.
Oui,
et puis,
tout à fait. C'est l'argent de poche, en fait, c'est ça.
Exactement.
En plus, ça nous apprenait à gérer l'argent de poche.
Tout à fait.
La revue, oui, c'est une éducation
alors
économique
que,
et esthétique.
Maintenant, on ne voit pas de... Enfin, je ne sais pas, moi je ne suis pas libraire actuellement, mais on ne voit pas d'enfant aller avec un billet de 50 euros ou de 20 euros pour acheter une bande dessinée chez un libraire.
Oui.
En tout cas, ceux qu'on connaît.
Oui.
Alors, il y en a beaucoup qui vont s'asseoir dans un coin, dans certaines officines que je ne citerai pas. pour lire un petit peu, et puis bah, ils repoussent le bouquin, puis ils
oui,
s'en vont.
Oui, voilà,
quoi.
Exactement. Mmh. Ça se fait beaucoup dans les rayons des mangas, en fait, dans les librairies. C'est là que, effectivement, les amateurs lisent le plus. Mais bon, si t'as rien pour t'installer, de toute façon, voilà, quoi. Oui. Donc, il reste la revue en kiosque, et chez le marchand de journaux, oui. Bah, il y a aussi le fait que ça devient un rituel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'attente, le plaisir de retrouver donc les personnages, de suivre une histoire. Il y a aussi
de découvrir la couverture.
De découvrir la couverture. Ah oui, la couverture, elle est très importante, très très importante. Il y a aussi l'empreinte matérielle du temps qui passe. Hein, c'est ça, c'est aussi au fur et à mesure que les années passent et qu'on achète sa revue et qu'on la voit évoluer et qu'on se sent de plus en plus s'en détacher aussi. Tu vois, pour aller vers d'autres revues, là, on sent bien qu'effectivement, les revues font partie de ce qui représente le temps qui passe. Voilà, le fait que l'on grandisse, que les goûts changent.
Ça fait partie du temps qui passe, ça fait partie aussi de ta culture.
Oui. Bah, de l'édification de son identité.
Et qui est parallèle à l'éducation qu'on peut avoir à l'école.
Oui.
Ce qui n'empêche pas, parce que pendant longtemps...
Voir à contrario, c'est-à-dire en fait voir aussi donc une résistance à l'autorité lorsqu'elle nous semble un petit peu trop lourde.
Je suis d'accord, mais ce que je voulais pointer, c'est que, en fait, pendant longtemps, on a dit, les lecteurs de bande dessinée, d'abord, il y a beaucoup de familles où on ne permettait pas aux enfants de lire des bandes dessinées,
oui.
parce que c'était pas bien.
Oui, c'était pas de la lecture.
Voilà.
Et encore moins de la littérature.
Ouais. Alors qu'en fait, ça va tout à fait bien ensemble. Mais c'est... ouais, peut-être indirectement la bande dessinée qui m'a rapproché de littérature. Mais après, il y a le parcours, le cursus scolaire, quoi, qui fait que quand on fait du latin et du grec, ben, forcément, ça vous forme l'esprit. Mais on peut quand même lire Marvel.
Exactement. En dehors, dans les cours dans la cour de récré. Et justement, bah, ça, quand on devient plus grand, ça forme des groupes de collectionneurs. Raconte-nous quelques anecdotes sur tes amis collectionneurs, en espérant qu'ils n'écoutent pas. Le collectionneur de BD, celui qui a... comment pourrait-on dire qui...
C'est une sorte de virus.
Qui a mal tourné. C'est l'amateur de revue qui a mal tourné.
Je suis allé très vite parce que c'est assez anecdotique. Oui, je faisais partie d'un groupe de collectionneurs de bandes dessinées à Lyon.
Tu peux nous l'avouer.
Et on avait une réunion toutes les semaines. Et on publiait une petite revue. Pour mettre au courant tous les gens que ça n'intéressait pas, je suppose, finalement, de tout ce qu'on faisait.
Vous aviez combien? C'était quoi le tirage?
Ouais, j'en sais rien, peut-être 200.
Ah ouais,
enfin,
bien,
c'était
bien.
La photocopieuse. Hein,
D'accord. Et en fait, c'était quoi le réseau de distribution et
à
de
la
diffusion
main.
Ah d'accord, à la main dans la rue.
Non, chez des gens choisis.
Ah d'accord.
Quand
oui,
même.
Au cours de soirée.
Oui, des soirées pyjama,
oui,
ils ont des BD.
Oui, des soirées pyjama avec le fanzine à la main. Je te reconnais.
Et puis, bon, bah, un jour, ça a commencé à me gonfler parce que les conversations étaient stériles. Mm-hmm. Je trouvais que ça ne menait pas à grand-chose. Et puis, un jour, je suis allé dans un magasin que je connaissais, dont le patron était un collectionneur fou qui s'occupait de cette association. Et j'ai vendu des bouquins parce que j'avais envie de partir en vacances en Angleterre. Et là, il m'a traité de traître. Enfin, bon, c'est...
De vendu, c'est le cas de le dire.
De vendu, oui.
De vendu qui a vendu ses revues.
Et ça a été la fin de cette belle histoire. Mais d'accord. Je ne regrette rien.
Oui, oui, oui.
Non, tu ne faisais rien plus... de rien.
Tu ne faisais plus partie de leur monde.
Voilà.
D'accord, ok. Donc, en fait, oui. Ben, c'est ça aussi, effectivement, les deux aspects complètement antagonistes.
La collectionnite, c'est une maladie. Hein.
Oui, tout à fait.
Enfin, moi, j'en suis persuadé maintenant.
Oui. Ah ben oui, 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 tout à fait. C'est vraiment... Bon, après, il y a aussi... oui, il y a des amateurs, malgré tout, et ça permet de...
Ouais, j'adore,
permet de se focaliser là-dessus.
Moi, j'adore l'objet. Hein. J'adore le livre. Ça, c'est clair. Mais par contre, la collection, c'est un autre problème. Quoi.
Oui. Ah ben oui, 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 tout à fait. Après, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir tous les numéros d'une revue, mais que certains numéros qui sont plus remarquables donc, sont bons à garder par-devers soi. Après, je pense que quand on parle d'éducation du regard, d'envie de dessiner et donc d'éducation du regard, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à un certain détachement par rapport à l'objet qui fait qu'on l'intériorise tellement parce qu'il est beau, que finalement, ben, on peut survivre en quelque sorte à sa perte. On se rend compte qu'à partir du moment où c'est beau au point de nous faire mémoriser sa beauté, ben, en fait, on peut très bien ne plus la voir avec soi.
Tout à fait. Et j'ai fait le même constat avec la musique.
Oui.
Quand matériellement, on n'a plus tel CD ou tel LP,
oui.
S'il est ancré, il est ancré.
Oui. Oui, tout à fait. Il fait partie de soi, donc il y a une espèce de mémorisation, d'intériorisation, presque de vision intérieure.
On va juste...
Parler très rapidement de revues de bandes dessinées actuelles qui ont pour particularité, telles que la revue dessinée, dont on a deux numéros ici en studio, donc le numéro 11 et le numéro 16, mais aussi Topo. Donc, et de parler d'un autre aspect des revues de bande dessinée,
c'est
l'aspect illustration de l'actualité, oui.
Voilà, c'est carrément l'inverse.
Oui.
Et c'est en plus destiné à un public, je dirais, relativement jeune.
Oui, adolescent, oui. Oui, oui, tout à fait, de lycée, par exemple, entre le collège et le lycée.
Voilà, tout à fait.
Et là, on n'est plus sur tellement... Enfin, c'est artistique, indéniablement.
C'est de l'info dessinée.
C'est de l'info dessinée. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus visuelle, où le visuel remplace l'écrit, hein, puisque là, où on serait plutôt habitué à voir des sujets qui sont traités par exemple, le monde diplomatique ou le courrier international, eh bien, on est sur des illustrations de bandes dessinées. Alors, nous, on fait sans doute partie de la vieille génération. Je serais curieuse. C'est dommage qu'on n'ait pas, effectivement, un lecteur de ces revues ici en studio, mais je serais curieuse de connaître sa perception. Mais c'est vrai que ça a un côté assez... Enfin, l'image, pour moi, à partir du moment où il y a un cadre, c'est subjectif. Donc, j'aurais tendance à me dire, bon, on apprend des choses indéniablement, mais pour moi, c'est assez bizarre de les apprendre, que ce soit aussi éducatif, en fait. Donc, je trouve que le côté éducatif nuit un peu au côté artistique.
Bon, je suis assez d'accord.
Oui. Mais c'est intéressant que ça existe, en fait. C'est un fait de société.
Apparemment,
hein.
Ça marche. Enfin,
oui,
d'après ce
tout
que
à fait.
Entendu.
Mm-hmm. Oui, oui, oui. Exactement.
Parce que là, la Topo, c'est le numéro 7.
Oui.
Et là, on est déjà 11, 12,
oui,
16.
Oui, 16, on est au numéro 16. Oui, oui, oui. Donc ça marche, effectivement. Et on apprend, effectivement, beaucoup de choses. Ce sont des sujets qui sont très approfondis, où il y a des problématiques. Après, je pense que c'est une question
après,
de génération, effectivement. On est dans
moi,
un monde
qui
est visuel.
Ce qui me pose un problème, c'est quel étudiant ou lycéen va avoir envie de se plonger là-dedans alors qu'il va sur BFM TV, LCI ou je ne sais quoi, et il va prendre plein d'informations visuelles dans la figure. Donc il y a quand même une démarche, j'allais dire, intellectuelle à faire pour aller se plonger dans ce genre de choses.
Il y a un côté redondant. Moi, je trouve qu'il y a un côté redondant parce que quand on a déjà la télévision, on a l'impression de l'avoir en écho dans l'oreille, en fait, parce que c'est les mêmes arguments, ça rajoute rien, en fait, à ce qu'on a déjà sous les yeux. C'est-à-dire que C'est, moi, ça me pose problème parce que c'est pas le style journalistique d'un Ernest Hemingway ou d'un Roger Vaillant. C'est pas le problème, c'est d'avoir compressé trop de genres en fait ensemble, c'est-à-dire oui, la BD, le journalisme et puis donc les faits de société. Ouais. Oui, tout à fait. Et forcément, ben, la notion d'objectivité, je trouve un petit peu endommagée. Par le visuel. Encore pour moi, le visuel, c'est du parti pris de toute façon.
Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais il n'y a pas de ligne claire éditoriale.
Voilà.
C'était le mot de la fin.
Oui, c'était le mot de la fin, effectivement.
Parce qu'on ne sait pas trop où on va, en fait.
Oui, mais c'est intéressant à regarder parce que c'est joliment fait, oui.
Mmh. Oui, il y a des petits dessins qui sont sympas. Je crois qu'on va être obligé de se quitter.
Oui.
À regret.
Oui.
Au revoir Pauline. Et je remercie le cercle des médiathèques.
Disparues, c'est ça?
Non, elles ne sont pas disparues.
Non, il y en a une qui est fermée pour l'instant pour un an,
voilà.
La bibliothèque Camus, mais sinon, voilà, les deux autres médiathèques sont là.
Aimé Césaire.
Toujours ouvertes, effectivement.
Aimé Césaire Vaillant.
Et Roger Vaillant. Elisabeth et Roger Vaillant, oui.
Bon.
Oui.
Et Roger Vaillant, c'est 300 000 francs, c'est ça?
325 000 francs.
Ah bon?
Oui.
Pardon.
La loi, Goncourt 1957, un grand écrivain.
Voilà, bah on va terminer par notre petit générique, comme d'habitude.
Oui, oui.
Allez, à bientôt.
À bientôt.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des...
Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Blanc,
et des...
Zip, shibam. Pas blanc.